Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Aujourd'hui, c'est le 49e numéro de cette émission. Vous voyez que ça commence à en faire. Et nous allons nous intéresser aux esclaves dans l'Empire ottoman et plus particulièrement au commerce dont ils font l'objet entre le 15e et le 17e siècle dans l'ère méditerranéenne. On va parler également du commerce en général, bien sûr, hein, puisque c'est une partie du commerce. On aura quelques éléments aussi de ce côté-là. Alors pour en parler, nous avons invité Airi Gussin Euskore. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes maître de conférence dans le laboratoire TELEM, que nos auditeurs connaissent bien, de la MMSH, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, d'Aix-Marseille Université, avec qui nous sommes partenaires. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Empire ottoman à l'époque moderne, et vous avez fait votre thèse sur ce sujet de l'esclavage. Travaillant sur l'esclavage, vous êtes aussi intéressé au travail, vous vous intéressez plus récemment au travail, à ses contraintes, à son aspect économique et social. Je dois aussi signaler votre dernier ouvrage, qui est paru donc en octobre dernier, qui est très, très récent, qui est une traduction du récit d'un cadi ottoman prisonnier à Malte. Cet ouvrage s'appelle « Le captif de Malte ». Il a été édité chez Anna Charsis, dont on parlera tout à l'heure. En fin d'émission, on donnera un peu quelques éléments sur cet ouvrage fort intéressant. Alors, on va commencer cet entretien avec une question pour éclairer nos auditeurs sur ce titre. Alors, qui sont les esclaves? Quel est leur statut? Quelle est leur utilité dans cet immense empire ottoman dont nous allons parler maintenant? Alors, les esclaves. Je sais que dans votre thèse, vous les avez définis avec trois éléments majeurs qui permettent de cadrer bien ce que sont ces esclaves.
C'est déjà tout d'abord un être humain qui se trouve sous forme marchande. Et donc, il se trouve sous cette forme marchande à l'issue justement d'une violence subie, notamment à l'issue d'une guerre, d'un rapt, d'une razzia, etc. Il y a aussi des familles volontairement qui vendent leurs rejetons à des réseaux marchands. Mais tout d'abord, pour la société ottomane, un esclave, c'est déjà quelqu'un d'étranger, quelqu'un d'extérieur. C'est donc un être humain qui a la particularité d'être également une propriété. Donc il y a cette nature hybride, à la fois homme et chose, ce qui remonte d'ailleurs au droit romain classique. Et puis, on justifie aussi l'institution servile en affirmant que justement, il y a une égalité théologique devant Dieu dans l'au-delà, mais ce qui justifie toutes sortes d'écarts et d'inégalités justement dans le monde de l'ici-bas. Et finalement, les esclaves dans l'Empire ottoman donc, sont nécessairement donc, soit issus de l'effort de guerre, soit de réseaux marchands. Ce qui signifie que les Ottomans ont recours à des intermédiaires justement de la traite, disons, intercontinentale d'esclaves, mais ça ne veut pas dire que ces esclaves, justement, qui se trouvent sous ces réseaux marchands, n'ont pas subi une violence initiale qui les a transformés, qui les a réduits en esclavage, justement.
Oui, ils sont en quelque sorte choséifiés quand ils sont, oui, quand ils sont capturés. Ils changent en gros de statut, ils ne sont plus véritablement seulement humains.
Voilà, il y a cette réification de l'être humain, donc il se trouve sous forme marchande. Ça n'enlève rien à leur humanité, hein. Il n'y a pas une déshumanisation en soi, donc, qui va de pair avec le statut. Seulement, c'est sûr que c'est un statut inférieur. Il y a une part d'humiliation et d'infériorisation. Mais justement, les fonctions des esclaves ne peuvent pas être qualifiées de façon uniforme. l'usage des esclaves n'est pas réservé à un seul secteur professionnel, un seul domaine de la société ou à une sorte de clientèle particulière. On trouve aussi bien des esclaves agricoles que dans les mines, dans l'armée, dans l'administration, dans les maisonnées des notables, dans l'espace domestique, dans les champs d'agriculture, et également dans le monde de l'artisanat et des arts.
Mmh. Oui, donc ce n'est pas réservé à une catégorie.
Non, et ni à une sorte de métier ou une spécialisation professionnelle particulière. Justement, la particularité de la société ottomane, c'est que, sauf quelques cas exceptionnels, où le recours à la main-d'œuvre servile intervient en temps de crise, démographique notamment, les esclaves se trouvent à côté d'autres statuts de travailleurs, justement, en tant que leurs collègues dans la même activité professionnelle.
Mmh. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas distingués. Quand ils sont dans leur activité professionnelle, ils n'ont pas cette distinction d'esclaves. Ils sont comme les autres.
Ben, en tout cas, ils exercent les mêmes activités, voilà. Ils font les mêmes gestes dans les tâches à accomplir, etc. À la fin de la journée, peut-être c'est leur statut qui détermine là où ils vont dormir et dans quelles conditions, justement, ils vont se retirer ailleurs par rapport au lieu de travail. Mmh. Et bien sûr, il y a des différences nettes en termes de rémunération et de possibilité de toucher des revenus. Mais le statut servile n'exclut pas du tout d'office de toucher une quelconque rémunération.
D'accord, on peut être esclave et être rémunéré normalement, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une règle, mais c'est toujours une possibilité. Et cette rémunération, justement, peut avoir lieu sous forme déjà de rente ou de loyer versé au propriétaire, justement, qui peut louer la main-d'œuvre de sa propriété humaine à d'autres entrepreneurs, etc. Également, un esclave peut être autorisé à mener des transactions marchandes ou à travailler pour quelqu'un d'autre que son maître afin de s'amasser un pécule, ce qui va lui permettre par la suite éventuellement d'accomplir son contrat d'affranchissement pour rembourser son maître qui va réaliser donc au terme de ce contrat qui peut s'étaler sur 8-10 ans. Donc non seulement il aura récupéré le prix de départ, donc ce qu'il avait versé au marchand d'esclaves, mais au terme de l'extraction du travail, donc dans cette durée du contrat, il aura aussi réalisé un certain profit. C'est en fonction de cela qu'on fixe les sommes à verser par les esclaves conditionnellement et contractuellement affranchis.
D'accord, oui. C'est-à-dire que finalement, le propriétaire récupère son capital et les intérêts finalement de ce placement. C'est un véritable placement qu'il a fait au moment où il a acheté, l'esclave.
Exactement. Lorsqu'un maître choisit d'établir un contrat d'affranchissement moyennant donc un remboursement échelonné. Mmh. Cela dit, l'esclavage chez les Ottomans n'a pas une logique purement économique et fondée sur le profit. Ou en tout cas, pas du tout fondée sur une notion de profit en numéraire. Il y a aussi l'extraction d'une sorte de bénéfice social et en termes d'influence personnelle et pour se constituer un réseau. Justement, ce que peut se permettre quelqu'un d'aisé ou d'assez riche, je m'explique. C'est dans le sens où vous faites cet investissement, mais pas en pensant à un rendement en forme d'extraction de travail ou de réalisation d'une entreprise économique, mais c'est un investissement plutôt à long terme, sachant que ça vous permet de vous constituer un réseau d'hommes et femmes fidèles et qui vous serviront et qui seront parmi vos proches et en tant que vos affranchis aussi. Mmh. Et il y a cette règle juridique donc, qui est stipulée selon laquelle les affranchis poursuivront la même relation de fidélité et de dépendance avec la famille du maître et les descendants du maître affranchisseur.
Mmh. Donc, d'accord.
Là, s'établit une sorte de relation de clientèle et qui peut se poursuivre indéfiniment, en théorie.
Mm-hmm.
Mais il est très difficile de suivre les traces de ce type de lien au fil des générations dans la documentation. Généralement, dans la documentation, on peut perdre très facilement cette trace du lien entre justement les anciens propriétaires devenus maintenant des patrons, protecteurs, et leurs clients, donc ceux qui viennent d'être affranchis.
D'accord.
Au-delà d'une ou deux générations, c'est très difficile de ne pas perdre cette trace dans la documentation.
Eh oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence importante dans l'ère méditerranéenne ou ailleurs sur le statut cette très grande diversité du statut de l'esclave dans l'Empire ottoman? Est-ce qu'ailleurs c'est pareil? C'est pas le sujet de votre thèse, hein, mais comme ça, simplement en deux mots, vous avez une réponse à ça? Est-ce que c'est la même chose ou pas?
Disons que c'est globalement un phénomène méditerranéen, mmh, qui connaît des configurations institutionnelles et juridiques particulières chez les Ottomans, qui ont leur propre tradition impériale, et il y a un fondement du droit donc, qui puise dans les sources du droit islamique sunnite. Mais si vous réfléchissez par exemple aux esclaves domestiques qu'on trouve en Espagne, en Italie, il n'y a pas d'énormes différences.
Mmh, d'accord, ouais. Oui, donc c'est assez... Ce statut, il est à peu près identique dans l'ère méditerranéenne.
Oui, d'ailleurs, il y a un tronc commun juridique qui remonte à l'Empire romain.
D'accord, oui. Oui, c'est pour ça que le statut est à peu près le même, quoi.
Oui, notamment pour la nature hybride entre hommes et choses, et notamment la manière dont on affranchit, on garde des liens avec ses affranchis aussi.
Mmh. D'accord. Donc une grande diversité dans leur utilisation, finalement, à peu près tous les domaines de l'activité économique, hein, même autres au-delà des activités économiques, utilisent des esclaves. Et donc ce qui va peut-être être intéressant, mais nous allons écouter un peu de musique, c'est de parler de l'approvisionnement. Alors je vous propose d'écouter le chœur des esclaves de Nabucco, de Giuseppe Verdi. Je me permets au passage de rendre hommage au chœur de Radio France qui, pour protester contre les suppressions de postes, a entonné ce chœur des esclaves au moment où la PDG de Radio France allait prendre la parole pour souhaiter ses vœux. Ces esclaves, donc, on en fait, bien sûr, commerce. Juste pour préciser, ils représentent combien combien de personnes en pourcentage de la population de l'Empire ottoman? Bon, on a une idée? C'est pas facile, peut-être.
Non, ce n'est pas facile, justement, déjà de dénumérer la population de l'Empire dans son ensemble. Hein. C'est vers la fin de la seconde moitié du 19e siècle, donc qu'on a des estimations, enfin, même des recensements plus ou moins fiables. Mais on peut estimer, justement, selon l'intensité des flux commerciaux et des prises de guerre, on peut estimer la population servile de l'Empire entre 1 et 10% selon les périodes et selon les lieux.
Oui, c'est beaucoup, hein?
Oui, c'est assez considérable.
Ben oui.
Et la part des affranchis dans la population encore plus importante.
Et oui, forcément. Forcément, parce qu'au fur et à mesure, il y a un certain volume d'esclaves qui est affranchi et qui va finalement retrouver le statut d'un
ottoman. Oui, d'accord. Comme les autres,
d'accord.
Du moins en théorie.
Ah, mmh. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelques difficultés, souvent.
Qui nous échappe à travers la documentation. Ce qu'on connaît, c'est les formules typiques de l'affranchissement, un peu des formules canoniques, sera dorénavant comme n'importe quel homme de libre naissance. Hein. Ouais. Il y a des formules de ce type dans les actes d'affranchissement. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des esclaves gardent des liens de dépendance vis-à-vis de la famille de l'ancien propriétaire.
Oui, c'est le système de la clientèle identique à l'Empire romain.
Voilà, c'est le système de clientèle. Et de plus, donc, dans la même veine, quand l'esclave n'a pas d'héritier, mais a un héritage à léguer, c'est la famille du propriétaire qui récupère ses biens.
D'accord. Oui, c'est comme le système seigneurial en France. Oui. Pareil, pour ça. D'accord. Et le commerce, donc, le commerce représente un nombre élevé de d'esclaves qui rentrent comme ça dans l'Empire ottoman.
Oui, assez important, surtout pour les 15e, 16e et 17e siècles. Ben, il y a des flux annuels qui varient entre 10 000 et 20 000 personnes qui peuvent circuler un peu.
Ah oui, c'est beaucoup aussi.
C'est assez considérable, c'est un flux régulier.
Oui.
Et ce sont les prises de guerre qui peuvent être assez spectaculaires dans certains cas, notamment dans le cadre de l'expansion en Europe à partir du XIVe siècle, qui produisent nécessairement un effet de démocratisation via la baisse des prix, ce qui rend la marchandise humaine beaucoup plus facilement accessible. Et d'ailleurs, les esclaves, généralement, sauf certains types très spéciaux qui sont considérés comme des produits de luxe, réservés seulement aux notables, aux dignitaires impériaux, voire le sultan lui-même et sa famille, ils restent accessibles. Ce qui est difficile, c'est d'entretenir un esclave dans sa vie indéfiniment, pendant de longues années. C'est qui est coûteux et onéreux. Justement, à cause des devoirs d'entretien matériel qui incombent au propriétaire. Mmh. Mais un propriétaire modeste d'esclaves peut très bien posséder quelqu'un, seulement, probablement, il devra travailler ensemble avec lui.
D'accord. Oui, parce qu'en vieillissant, ben, ça devient quelqu'un qui ne peut plus fournir grand-chose à son propriétaire. Il ne peut plus beaucoup travailler en vieillissant. Et donc, forcément, c'est un coût.
Oui, mais c'est dans justement ce type de considération qu'on va peut-être s'abstenir d'affranchir quelqu'un qui n'a plus les moyens de subvenir à ses propres besoins.
D'accord. Il y a un peu un comportement moral.
Oui, assez paternaliste, finalement.
Oui, forcément, oui. Mm-hmm.
Et donc, on ne va pas nécessairement procéder à l'affranchissement des esclaves considérés comme vieux et incapables de travailler pour subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Et donc, par ce souci dit de protection, ils demeureront esclaves jusqu'à leur mort.
D'accord. Oui, ce qui pour eux n'est pas plus mal quand ils arrivent à un certain âge.
Ça dépend des cas.
Oui, ça dépend des cas. Mais bon, en principe, en vieillissant, ils ont intérêt à avoir quelqu'un qui les... peut-être qui les protège et qui subvient à peu près à leurs besoins, quoi.
Et cela signifie aussi qu'ils ont beaucoup moins les moyens de s'échapper ou de résister physiquement.
Oui, bien sûr. Oui, forcément.
Parce que ces cas de figure existent et de manière assez systématique aussi. La plupart des documents qu'on trouve dans les registres juridiques des tribunaux des villes et circonscriptions urbaines de l'Empire, justement, en dehors des actes d'achat et d'affranchissement, ce sont les cas d'esclaves fugitifs appréhendés par les agents qui dépendent du tribunal et qui sont chargés de veiller justement à la garde d'un esclave fugitif jusqu'à ce qu'il soit réclamé par leur propriétaire.
Et alors, s'il n'est pas réclamé ?
S'il n'est pas réclamé, il est vendu aux enchères pour le bénéfice du tribunal qu'il a entretenu matériellement le temps d'attendre justement que son maître se manifeste.
Ouais, d'accord.
Il y a donc le délai coutumier de 3 mois.
D'accord, ok, ouais. C'est vraiment très cadré juridiquement, tout ça, là.
Oui, il y a tout un code de l'institution de l'esclavage chez les Ottomans qui n'a pas été systématisé en tant que tel. Et c'était mon travail aussi d'aller chercher dans différents types de textes et de codes législatifs, de trouver systématiquement tous les règlements qui s'appliquaient au cas des esclaves et des affranchis.
Ouais, oui, j'avais remarqué que dans votre thèse, vous consacriez une bonne partie justement à cette étude juridique pour essayer de faire la lumière sur les les structures juridiques diverses qui pouvaient prendre en compte l'esclavage. Alors revenons donc maintenant aux zones d'approvisionnement. D'où viennent ces esclaves ? En Méditerranée, Méditerranée est vaste, et ce commerce des esclaves, il est divers, je pense qu'il change au fil des siècles et au fil de l'expansion ottomane, vraisemblablement.
Oui, principalement, donc cet approvisionnement sera axé sur les conquêtes ottomanes elles-mêmes, qui commencent d'abord aux dépens de Byzance, et il y a une première expansion à partir du XIVe siècle, justement, en direction des Balkans. Et donc, ce sera aux dépens des royaumes de Serbie, de Bulgarie, de Hongrie par la suite. Et donc, n'importe quelle puissance donc, qui se bat contre les Ottomans, quand elle est vaincue et quand on en fait des prisonniers de guerre, ben, ces personnes-là sont réduites en esclavage, ouais, potentiellement. Et justement, les débuts de l'État ottoman, c'est aussi ils correspondent à une sorte d'entreprise de prédation, justement, via la guerre pour la saisie de marchandises, du butin et donc des êtres humains, donc destinés à être possédés dans la société ottomane ou bien vendus comme marchandises à d'autres sociétés avoisinantes. Mmh. Justement, par exemple, ce qu'on a appelé les beylikas turcomans d'Anatolie, hein, donc ces autres principautés rivales, et même beaucoup plus puissantes que les Ottomans au départ. Mais les Ottomans ont eu la chance d'étendre leur domaine aux dépens de Byzance, donc d'une puissance chrétienne, au lieu de s'en prendre à des puissances, ouais, musulmanes, disons, rivales, mais aussi qui peuvent être considérées comme des sœurs. Mmh. Mais le cas du XIVe siècle anatolien est assez particulier, justement parce qu'on a essayé de produire ce discours sur l'affrontement entre des blocs religieux, mais la réalité du conflit sur le terrain en est très très loin, dans le sens, ah oui, où les Ottomans collaborent contre Byzance avec des mercenaires grecs, balkaniques, catalans.
Oui.
Il y a juste un front commun pour le butin et la saisie de marchandises. Donc, la guerre, c'est un moyen d'enrichissement pour les premiers Ottomans.
Ouais.
C'est à partir de la fin du XIVe siècle, justement, quand se met en place une bureaucratie, un système fiscal de plus en plus sophistiqué et justement qui est fondé sur l'administration des biens fonciers et de l'exploitation de la terre, en partie pour financer l'armée, donc remplir les caisses de l'État, que la prise d'esclaves via la guerre devient une sorte de source de revenus de plus en plus marginalisée, pas du tout au cœur de l'entreprise militaire. Mmh. Alors que pendant les premières décennies de l'expansion ottomane, c'était au cœur des gains financiers. Et parmi les motivations principales aussi de cette aventure militaire, finalement. Et ben, ce qu'on peut constater également, c'est que cette prise d'esclaves et donc cette intégration forcée de centaines et de milliers d'êtres humains donc, venant des sociétés justement ennemies, c'est aussi une manière d'élargir justement le nombre des sujets du sultan et éventuellement le nombre de croyants fidèles donc de la religion musulmane. Donc il y a aussi cette valeur sociale, culturelle et religieuse qui peut être investie de la part des Ottomans, surtout de la part des autorités, dans le fait d'obtenir des esclaves. Mm-hmm. Parce que ce sont des futurs Ottomans potentiels.
Oui, donc ça va augmenter la puissance ottomane, mécaniquement.
Oui, et démographiquement, il y a, et même sur le plan de la bénédiction divine, puisque justement ça permet d'amener plus de musulmans dans le domaine impérial. Donc, il y a cette ferme conviction selon laquelle donc, c'est aussi pour le bien de l'extension du royaume, finalement, mmh, et de la communauté des croyants.
Oui, c'est donc, ça. On augmente la communauté des croyants, donc on est bien dans le dans la ligne religieuse, et en même temps, ça permet d'améliorer la puissance de l'Empire ottoman là, par le volume de population. Alors donc, l'Empire va en quelque sorte se diffuser dans des zones où on va trouver de la population à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Hein. Donc, en particulier du côté de la mer Noire. Hein, c'est surtout c'est cette partie-là qui fait l'objet de conquêtes importantes. Est-ce que ça, cette expansion, après, se modifier, va partir dans d'autres directions pour trouver d'autres lieux où l'armée va pouvoir, et l'Empire ottoman va pouvoir récupérer encore des esclaves.
La maîtrise de l'espace de la mer Noire, justement, à partir de du troisième quart du 15e siècle, va permettre aux Ottomans déjà de récupérer les échelles commerciales des Génois et des Vénitiens dans cet espace, donc qui contrôlaient le trafic d'êtres humains, justement, en provenance du nord de la mer Noire vers l'Europe méridionale et occidentale par la suite. Donc, le fait de chasser les marchands italiens de cet espace permet aux Ottomans déjà d'instaurer un contrôle véritable sur les anciens réseaux marchands de la traite, donc qui remontent au Moyen-Âge. Et puis, l'inclusion des Tatars de Crimée, donc dans l'orbite ottomane, donc comme une sorte de puissance tributaire alliée, mais de rang inférieur. Ce n'est pas vraiment un partenaire égal, mais sous la coupe du sultan ottoman, justement. Ben, l'inclusion de cette puissance dans la constellation impériale ottomane va permettre d'acquérir une solide source d'approvisionnement régulière grâce aux raids et razzias donc annuellement organisés par les Tatars de Crimée, donc en direction du Caucase, en direction de ce qui correspond à l'Ukraine actuelle, donc c'est la Ruthénie, plus au nord vers la Moscovie, et les domaines de la Pologne-Lituanie également.
Ah oui, ça remonte beaucoup vers le nord.
Beaucoup vers le nord et vers l'ouest aussi, parce que la Hongrie va également donc, subir sa part de cette petite guerre extra-frontalière. Et donc, indépendamment des mouvements de conquête et de l'expansion ottomane, donc en Europe ou en mer Égée ou sur le littoral méditerranéen, ben, cet allié donc, que les Ottomans trouvent chez les Tatars de Crimée va leur permettre d'assurer un flux continu de la marchandise humaine jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Et
donc, selon des estimations, c'est un flux annuel qui se situe autour d'une dizaine de milliers de personnes.
Ah oui. Oui.
Et donc, qui vont pénétrer les différentes échelles, donc les villes portuaires de la mer Noire, surtout sur la côte anatolienne. Et bien sûr, la cible principale de ce trafic étant la capitale impériale, Istanbul.
Oui. Et donc, ça fait presque deux siècles de trafic ininterrompu, quasiment, et régulier. Ben, ça doit, au bout du compte, faire plusieurs centaines de milliers de personnes, alors.
Oui. Et surtout, donc, au cours du XVIe siècle, où la traite transatlantique commence juste à démarrer, d'année en année, justement, on peut trouver des chiffres équivalents, voire supérieurs du côté de la mer Noire.
Ah oui.
Parce que, justement, au début du XVIe siècle, là où le commerce triangulaire n'a pas encore vraiment décollé, on trouve des chiffres de l'ordre de 1000 personnes par an donc importées depuis les Amériques, ce qui est 10 fois moins que justement le volume commercial du côté des Tatars de Crimée.
Oui, c'est curieux parce que l'histoire s'est surtout attachée justement à ce commerce atlantique, ce commerce triangulaire. Et puis on a peut-être un peu laissé de côté, un peu oublié ce commerce à partir de l'Empire ottoman vers l'Europe centrale en particulier, autour de la mer Noire.
mais qui n'y est pas confiné. Parce que justement, il y a des réseaux marchands et toutes sortes d'intermédiaires donc, dans le commerce, par exemple transsaharien, justement, ouais. qui approvisionne les provinces maghrébines de l'Empire ottoman aussi. Et donc, ce sont des caravanes qui proviennent justement de l'Afrique centrale ou du sud du Sahara, justement, mm-hmm. ou dans le cas de l'Égypte. Il y a des convois marchands donc, en provenance de la Corne de l'Afrique. Et donc il y a une forte demande en esclaves éthiopiens dans cette région-là. Tout ça pour vous dire que ça, ce n'est pas un sujet qui a été recherché suffisamment, ce n'est pas encore fouillé, mais très probablement, surtout en Afrique centrale et occidentale, il y a probablement des sources communes pour les Ottomans et pour les colonies européennes des Amériques.
Ah oui.
Donc,
ah oui, c'est intéressant, ça. Tiens, on n'en parle pas beaucoup. Hein.
Non.
En tout cas, c'est
parce
vrai que
justement, à cause des intermédiaires à la fois employés par les Ottomans et, disons, les marchands portugais, par exemple, ben, les sources véritables des zones d'approvisionnement et des sociétés guerrières qui se situent justement en terre ferme, en dehors des zones côtières ou en deçà de justement des circuit caravanier, ça nous échappe totalement et ce n'est pas du tout documenté.
Ah oui, alors il y a un champ de recherche intéressant et à fouiller. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler et que les historiens travaillent tant que ça. On va donc faire une petite pause musicale en écoutant donc Tiken Jaffa-Coli, un extrait de son album Racine avec un morceau qui s'appelle Slavery Days.
Remember the days of slavery? Do you 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 remember the days of slavery? And the beaters. And the workers so hard, and they use us till they refuse us. Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery?
Alors nous sommes donc sur Radio Zinzine, l'émission Mare Nostrum. Je reçois aujourd'hui Airi Gösin Özkoray et nous parlons donc du commerce des esclaves dans l'Empire ottoman. Alors ce commerce, vous nous avez parlé un peu des zones d'approvisionnement. J'aimerais revenir sur deux, trois points de ces zones. Le Danube, par exemple, qui devient à un certain moment... une véritable autoroute de l'esclavage utilisée par plein de gens, par plein de marchands, par plein de cités marchandes.
Oui, tout à fait. Justement, ce bassin danubien assure le lien entre les circuits commerciaux de la mer Noire et donc pour les relier au-delà des Balkans pour justement déboucher sur l'Europe méridionale, donc à partir de la mer Adriatique. Mmh. Et c'est un circuit commercial, et donc ce sont des routes à la fois donc, ben, fluviales et terrestres en partie, qui sont utilisées par exemple par les marchands vénitiens qui donc, assurent le lien justement entre ben, l'Adriatique et le reste de l'Europe méridionale, et donc leurs circuits, leurs échelles commerciales donc de la mer Noire, d'où ils obtiennent justement une bonne partie d'esclaves donc dits russes, donc d'origine slave. Et d'ailleurs, en Europe médiévale, une partie, pas tous évidemment, donc il ne faut pas faire des estimations statistiques là-dessus, mais une partie des gens qui s'appellent Rossi, par exemple, ont cette origine-là, justement.
Ah oui, d'accord.
Mais pas tous les Rossines ne sont d'origine esclave et russe.
D'accord. Alors, ce qui est curieux, c'est que finalement, ça s'alimente aussi en esclavage, y compris l'Europe méridionale, alors que l'histoire n'en parle pas beaucoup de ça non plus.
Il y a un certain nombre d'historiens qui s'y sont intéressés. Il y a de la recherche renouvelée aussi, justement, qui est assez active depuis une dizaine, quinzaine d'années là-dessus. Mais on a tendance à se concentrer davantage, justement, sur l'espace transatlantique.
C'est ça, ouais.
Pour oublier, justement, la persistance de l'esclavage jusqu'au 18e, 19e siècle en Europe continentale.
Oui,
qui est un héritage ancien, mais qui a perduré. D'accord, ce n'était pas à une échelle sociétale extraordinaire pour être un phénomène majoritaire, mais vous voyez dans les cités marchandes, justement, la présence de personnes de conditions serviles.
Mmh. Oui, c'est quand même assez extraordinaire, ça. Alors, en dehors de la route du Danube, il y a aussi ce qui m'a intéressé... une curiosité quand même, l'île de Chypre qui est un relais intéressant dans la Méditerranée à travers son Famagouste en particulier, et donc où là il y a des puissances qui se... l'Empire ottoman n'est pas loin, mais les Vénitiens y sont d'abord, et il y a des changements importants dans les routes commerciales.
Oui, absolument. Déjà, l'île de Chypre est une plaque tournante du commerce en Méditerranée orientale, donc faisant le lien entre l'Asie mineure, la Syrie, Palestine, l'Égypte et justement la sortie de la mer Égée et donc l'espace occidental aussi finalement. Et en très peu de temps, justement, l'île va changer de main, donc d'autorité politique. D'abord, justement, c'est la période franque, donc qui remonte déjà aux croisades qui prend fin, faute d'héritiers mâles, justement, de la famille des Lusignan, donc en 1489. Là, où débute, justement, la domination vénitienne sur l'île. Mmh. Et une sorte d'instauration d'une domination un peu sans concession vis-à-vis de la population grecque-orthodoxe de l'île, de la part des maîtres vénitiens, qui s'en servent comme des serfs, comme des métayers dont la liberté est donc sévèrement limitée. Et dans certains cas, ces Grecs orthodoxes sont transformés purement et simplement en esclaves. Et d'ailleurs, à peu près un siècle plus tard, donc en 1570-71, donc à l'issue de la conquête ottomane, que cette dynamique sera renversée, justement, parce que la population grecque orthodoxe, d'ailleurs, dans le cas d'autres îles arrachées aux Vénitiens, à l'Empire vénitien, justement, de la part des Ottomans, les Ottomans seront accueillis en partie en tant que libérateurs par ces populations, justement, qui ne vont pas subir les mêmes pressions religieuses pour l'exercice de leur liberté de culte orthodoxe, par exemple. Mmh. Et puis, ils deviendront des sujets ottomans contribuables et libres, alors que justement, ce sont les anciens maîtres vénitiens et leurs hommes d'armes et leurs forces armées qui deviendront justement des prisonniers de guerre réduits en esclavage.
Ah oui.
Pour changer la donne de façon assez radicale et finalement pour faire un effet de miroir.
Oui, c'est ça, c'est une inversion des choses, oui. Qui se fait finalement assez rapidement.
Oui.
Il suffit que les Ottomans arrivent pour que le pouvoir change de main et avec la situation des esclaves. Et c'est assez surprenant. D'autres lieux que vous citez dans vos travaux, les zones qui vont permettre donc d'atteindre l'Europe centrale, et vous parliez donc justement des relations avec les Habsbourg qui vont transformer là aussi une partie des circuits commerciaux, puisque l'Empire ottoman, qui est en guerre quand même pendant un long moment avec les Habsbourg, va finalement mettre un terme à cette guerre.
Et oui, ce conflit donc connaît des moments d'arrêt au long du XVIe siècle, mais pour connaître une fin définitive et d'ailleurs qui marque justement le début du recul ottoman en Europe à la fin du XVIIe siècle. Mais il y a aussi une sorte de situation de condominium finalement à la frontière hongroise, là justement après les conquêtes de Soliman, donc, qui vont se poursuivre notamment jusqu'aux années 1540. Donc au terme de cette récupération d'une bonne partie de la plaine hongroise, justement de la Hongrie royale, va s'instaurer justement une sorte d'entente cordiale dans la région. Et en temps de paix officielle, donc va s'instaurer aussi une sorte de relation frontalière à la fois conflictuelle et paisible. Donc, d'une part, on va poursuivre les relations au quotidien pour faire du commerce. Et d'autre part, il y aura toujours des excursions un peu surprises pour faire des raids, donc qui vont accaparer des esclaves nouveaux. Peut-être à petite échelle, c'est vraiment la petite guerre extra-frontalière, donc non systématique, mais dans cet espace va se poursuivre cette prise d'esclaves, donc épisodique. Mais justement, par rapport à l'expansion ottomane et à la configuration des territoires ottomans, ce qu'on peut faire remarquer, donc tout à l'heure, on parlait de l'exemple de Chypre ou du bassin danubien. Les Ottomans vont s'installer et vont étendre leur domaine de façon cohérente et englobante dans des espaces où autrefois il y avait une sorte de traite déjà systématisée depuis au moins le Moyen-Âge. Ce que les Ottomans font, c'est de s'instaurer sur ces circuits commerciaux et ports douaniers, justement, pour s'assurer du monopole à la fois du contrôle de la sécurité de ces routes et du flux régulier de leurs revenus.
Oui, c'est quand même leur préoccupation. C'est quand même leur principale préoccupation. Donc, on va faire encore une petite pause musicale parce que j'ai un certain nombre de choses intéressantes dans ces pauses musicales, c'est pour ça qui s'inscrivent bien dans la thématique, avec la danse des esclaves, qui est issue de l'œuvre de Berlioz, Les Troyens. Vous disiez il y a un instant que ce qui importe pour le commerce, l'organisation du commerce ottoman, c'est donc l'approvisionnement et puis la taxation, qui s'applique pour les deux d'ailleurs, pour ces deux éléments à l'esclavage parfaitement.
Oui, absolument. Donc il y a cette politique un peu dirigiste et cette instauration d'un contrôle assez étroit finalement, donc sur dans toutes sortes de commerces, donc y compris celui des esclaves, qui est d'une nature un peu délicate à cause justement de cette possibilité toujours éventuelle de faire du trafic illégal et illicite d'esclaves, donc de personnes illégalement asservies, qui peuvent être issues d'une puissance avec laquelle l'Empire ottoman est en paix, ou avec laquelle les Ottomans ont signé une trêve. Donc, ces sujets ne sont plus de bonne guerre. Et puis, il y a tout simplement le cas des sujets ottomans qui peuvent être asservis par des marchands ou des corsaires ottomans pour être transportés beaucoup plus loin dans l'Empire ou vers l'extérieur de l'Empire aussi.
Ah oui.
Et une fois que votre vente est approuvée officiellement, tamponnée, il y a un reçu fiscal émis par une autorité, c'est très difficile de renverser cette situation. Parce que justement, l'acte de vente a été considéré comme légal initialement. Et par la suite, donc, c'est à l'esclave de prouver, en s'appuyant sur des témoins considérés comme fiables, que justement, il a été victime d'un rapt illégal et que c'est un sujet ottoman à l'origine.
Oui, donc l'approvisionnement, il se fait y compris à l'intérieur, quoi.
Oui, même si ce n'est pas à la même échelle, ce phénomène existe. Et c'est pourquoi les autorités essayent de réglementer aussi qui peut commercer un esclave légalement en s'inscrivant dans les guildes officiellement reconnues, justement, dans les grands marchés urbains. Sauf que n'importe qui aussi peut se donner à échanger contre de l'argent ou des marchandises, se donner à une transaction commerciale d'esclaves. Et, par exemple, quand on effectue le pèlerinage de la Mecque, justement, les routes du pèlerinage, donc en Méditerranée orientale, donc en direction de la mer Rouge, croisent aussi celles du commerce des esclaves en provenance de, par exemple, l'Afrique orientale. Et donc, tout en accomplissant une sorte de devoir religieux et donc en effectuant ce voyage, il y a beaucoup de gens qui effectuent aussi du petit commerce d'esclaves, justement pour faire du troc aussi ou pour s'en servir comme une sorte de justement chèque de voyageur finalement. Reprendre l'expression de Bernard Lewis.
Ah ouais. Oui, chèque de voyage, ce sont en fait les esclaves qu'on emporte avec soi. Ça permet donc finalement de payer le voyage, de payer les à côté, de payer, etc.
Et pour se faire assister pendant le voyage aussi.
Oui, d'accord.
Pour avoir un serviteur personnalisé.
Alors ce qui me frappe quand même, c'est la façon dont finalement tout ça est cadré juridiquement, encore une fois. Je le pensais par rapport au statut des esclaves, mais par rapport au commerce aussi, et par rapport à tous ces échanges qui sont vraiment cadrés, les taxations, les pièces qui prouvent l'achat, qui prouvent, etc., etc. Il y a un cadrage juridique qui est exceptionnel dans l'Empire ottoman.
Il y a ce désir d'encadrer et justement de réglementer et de contrôler, moyennant aussi justement la récupération d'une taxation assez importante. Ouais. Par exemple, pour le droit du souverain, c'est de l'ordre de 1 cinquième justement des transactions, soit en numéraire, soit en nature. Ce à quoi s'ajoutent aussi toutes sortes de taxes douanières et aussi d'autres frais justement perçus à la fois sur l'acheteur et le vendeur. Mais indépendamment de cela, peut-être ce qu'on peut ajouter, malgré donc cette institutionnalisation et cet effort justement d'encadrer, il y a toujours des phénomènes illicites qui échappent justement au contrôle des autorités. Et oui, surtout, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un d'illégalement asservi, une fois que cette personne est vendue et que cette personne part loin sur les circuits commerciaux, c'est extrêmement difficile de renverser la situation pour rétablir son statut d'homme libre.
Et ça voudrait dire quand même que pour l'Empire ottoman comme ailleurs, quand on finit par réglementer trop, il y a des gens qui y échappent forcément et qui essayent d'y échapper de plus en plus. C'est peut-être aussi le cas là, dans cette période et pour ce commerce des esclaves.
Oui, et par ailleurs, j'ajouterais une chose à cela. Ben, s'il y a des phénomènes justement illicites d'esclavage, c'est donc paradoxalement grâce au fait que l'esclavage est légal dans cet empire. C'est pourquoi il n'est pas choquant que vous ayez justement réduit une personne en esclavage, parce que c'est quelque chose qui se pratique ordinairement. Donc personne ne va se révolter sur le fait que vous avez un esclave, même si cette personne est illégalement asservie. Donc, donc tout cet encadrement et toute cette dimension juridique produit aussi son travestissement et son inversion potentielle.
Ouais, ouais. Et alors, les marchands occidentaux, qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette réglementation, dans cette surveillance des prix, de la qualité des produits, etc., etc. Est-ce que ces marchands occidentaux vont réussir à maintenir leur place ou pas ?
Maintenir leur place, non. Non. Justement, leur domination d'autrefois, surtout, par exemple, pour assurer aussi les liens entre la mer Noire et l'Empire, enfin le sultanat mamelouk justement de Syrie et d'Égypte, va totalement disparaître. Les Vénitiens et les Génois ne vont plus jouer les rôles d'intermédiaires justement pour l'approvisionnement de l'Égypte, par exemple, en esclaves circassiens et du Caucase. Mm-hmm. Justement, une des questions de recherche encore actuelles qui se posent, c'est la manière dont ces experts de la traite se sont reconvertis une fois que la mer Noire était captée par les Ottomans. Mais en dehors de cela, bon, il y a bien sûr les échelles du Levant, donc accueillent toutes sortes de marchands occidentaux tout au long de l'époque moderne, ce qui est très encadré aussi via les réseaux consulaires. Et on trouve des traces justement d'un certain nombre de marchands ou de clients tout simplement, même pas des marchands mais des acheteurs, donc que ce soit des Français ou des Flamands ou des Espagnols ou des Italiens, ben, qui font quand même l'acquisition d'esclaves dans les domaines ottomans pour les amener chez eux éventuellement. Ce qui est donc inconcevable et considéré comme illégal, c'est qu'ils fassent l'acquisition d'esclaves musulmans.
Oui, oui, ça bien sûr. Hein.
Ça ne signifie pas que ça ne se fait pas dans la pratique. Y compris, par exemple, du côté des sujets ottomans, ben, des sujets chrétiens et juifs qui n'ont pas le droit, justement, de posséder des esclaves musulmans. Donc, sur le plan juridique légal, ben, ils en possèdent quand même. Et donc, les nombreuses réitérations des règles par les autorités signifient aussi qu'ils ont du mal à faire respecter ces...
Oui, quand on multiplie les textes, ça finit par ne plus servir à rien. Et est-ce que, pour terminer, est-ce que ces marchands occidentaux sont encore impliqués dans le commerce des esclaves ou pas, vers le XVIIe siècle, ou plus du tout, ou très peu
au sein des domaines ottomans, non.
Et ailleurs.
Mais on sait qu'il y a une sorte de glissement de ces activités de façon assez marginale, ben, du côté du Maghreb, ensuite du côté de l'Afrique occidentale, mmh. et pour justement s'insérer dans les réseaux de marchands transatlantiques, où quand même auront toute leur importance plutôt les compagnies ben, portugaises, hollandaises et anglaises,
d'accord.
avant tout.
Oui, ils se sont tournés vers l'Atlantique. Alors je voulais terminer en parlant de votre livre. Le captif de Malte. Je l'ai lu, cet ouvrage. Donc, je rappelle, Le captif de Malte. C'est donc aux éditions Anacharsis. C'est un livre qui a été donc traduit par notre invité. Qu'est-ce que c'est d'abord cet ouvrage, Le captif de Malte? C'est un récit.
C'est un récit, ce sont des mémoires de captivité rédigées donc, par un juge ottoman qui était justement enlevé de sa circonscription par les chevaliers de Saint-Jean de Malte donc à la fin du XVIe siècle. Et il a passé donc, dans la prison de la Valette 2 ans de captivité. Et il a rédigé ce texte justement afin de solliciter son rachat vis-à-vis des autorités constantinopolitaines. En tant qu'homme de lettres, justement, il avait la possibilité de solliciter la faveur et la générosité des grands. Et d'ailleurs, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean avaient bien conscience qu'il avait bien plus de valeur en tant que captif rançonné et rançonnable que simple forçat, justement, soumis à la construction de la fortification de la Valette.
Oui, parce qu'effectivement, il raconte un peu son emprisonnement. Et justement, vous parlez de la construction de la fortification de la Valette. Il y participe, effectivement.
Oui, donc dans l'attente du paiement de sa rançon, justement, c'est l'ordre de Saint-Jean en tire profit, justement, en l'utilisant aussi comme forçat. Mais dans le texte, justement, vous avez le témoignage sur sa vie quotidienne en général. Ouais. Les personnes qui l'y fréquentent, pas mal d'autres Ottomans, y compris des collègues, d'autres cadis, qui sont également captifs et rançonnés par l'ordre de Saint-Jean. Et c'est justement son rang social relativement supérieur qui le distingue d'autres victimes de la guerre de course et de la piraterie méditerranéenne qui constituent les masses anonymes qui disparaissent justement dans les sources en tant qu'esclaves vendus par dizaines, par centaines. Mm-hmm. Là, c'est quelqu'un qui a un nom parce que c'est un captif de valeur et qui va être rançonné. Ouais. Donc, il ne participe pas du commerce des esclaves, mais du commerce des captifs.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qui est aussi, je veux dire, assez drôle quelquefois, même si c'est dramatique, c'est ces plaintes perpétuelles. C'est vrai que c'est pas à chaque page, mais c'est assez fréquent.
C'est assez fréquent et qui vont finir par lasser aussi ces co-détenus, justement.
Oui,
qui
voilà,
sont dans
c'est
la
ça.
Même situation, mais qui ne s'en plaignent pas autant.
Ouais.
En tout cas, c'est aussi un ouvrage qui contient beaucoup de poésie assez créative, assez inventive, qui a pour but, justement, de prouver aux dignitaires ottomans dans les provinces centrales que c'est un homme de valeur qu'il faut sauver à tout prix.
Ouais.
Et d'ailleurs, ouais, il a une vision non pas religieuse, justement, de sa condition, mais très classiste.
Oui, ouais, tout à fait. C'est bon. Eh bien, écoutez, merci pour ces quelques éléments concernant ce livre. Je rappelle « Captif de Malte ». C'est un ouvrage que je vous engage à lire parce que c'est très intéressant. Et puis, on va se quitter là. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, une autre fois, vraisemblablement. Parce que vous allez continuer à travailler dans cette direction. Et c'est avec plaisir qu'on vous fera revenir.
Merci. Avec plaisir, pareillement.
Merci, au revoir.
Au revoir. Playing games and facing scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't.